Alors Pascal Rambert, vous avez écrit et mis en scène la pièce à succès Clôture de l'amour, qui dès aujourd'hui sera jouée durant une semaine, deux semaines même, jusqu'au 1er juin au TNB. Les acteurs sont à nouveau Audrey Bonnet ainsi que Stanislas Nordet. Clôture de l'amour, c'est la désillusion de l'amour, on y croit, on se projette et finalement on échoue. C'est une pièce qui a été écrite sur mesure pour ces deux acteurs, des gestes jusqu'à la tessiture.
Ben voilà, vous avez tout dit. Non, c'est vrai, mais parce que c'est quand même une longue aventure. On a créé ça, j'ai écrit cette pièce pour Audrey Bonnet et Stanislas Nordet donc en 2010, on est en 2018. On l'a créé au Festival d'Avignon en 2011 et on le joue toujours partout dans le monde entier, tout le temps. J'en ai moi-même réalisé, mis en scène 13 ou 14 versions, donc 13 ou 14 langues différentes à travers le monde. Depuis 2011, je la joue de temps en temps aussi, quand on partage le rôle Stanislas Nordet et moi. Et Stanislas est aussi quelqu'un qui a été ici pendant des années, associé à ce théâtre. Donc c'était normal que ce soit lui qui joue cette fois-ci. Donc c'est une histoire, oui, très longue et très assez unique en fait. Mais je crois que c'est parce que du fait que ça a été extrêmement cousu sur leur corps. Je crois beaucoup en ça, en l'absolue intimité comme ça du rapport d'écriture pour des acteurs. Et parfois, ça produit en effet ce que vous appelez une pièce à succès. Et oui, pourquoi ? Parce que c'est une rencontre entre le contraire de ce qu'on pense d'habitude, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des grands sujets généraux, etc. Or, on se rend compte que plus on se rapproche de soi, plus on est dans un, je sais pas, comme dans un rapport très 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 privatif, en fait, ça concerne tout le monde. Donc ce qui semble être le privé est en fait, quand c'est bien fait, très public.
Un rôle sur mesure, mais de nombreux acteurs ont interprété à nouveau les rôles d'Audrey et de Stanislas, puisque la pièce a connu justement un succès. Mais alors d'où est venue l'inspiration de cette pièce ? Pourquoi en 2010, à ce moment-là, à cette période-là de votre vie, et pas une autre ?
Souvent j'ai fait des pièces, très souvent d'ailleurs toutes les pièces sont faites à partir de des jours, des semaines, des mois, des années de ma vie. Après je donne des formes différentes ou des visages différents à travers des personnages. On peut pas ne pas dire quand on écrit, on est détaché de l'histoire qu'on raconte. Et là, en l'occurrence, celle-ci était spécialement... là pour le coup privé, puisque c'est ma propre séparation avec une femme avec qui j'ai vécu pendant presque 10-13 ans entre Paris et New York, qui était actrice, qui est toujours actrice d'ailleurs, qui est une actrice américaine, et on vivait entre Paris et New York, voilà. Et on faisait du théâtre ensemble, on faisait des films ensemble, voilà. Donc il y avait une chose très forte comme ça, et puis je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et donc c'est ça que ça raconte ce moment... à la fois où il faut annoncer que c'est terminé, où il faut écouter la douleur de l'autre. Et à mon grand étonnement, par la forme qu'a la pièce elle-même, puisque c'est l'acteur masculin qui parle pendant environ une heure, et elle lui répond une heure durant. Donc c'est vraiment pas une forme qui est, disons, classique, attendue, etc. C'est le contraire de ça. Et ça a rencontré, la preuve, ça a rencontré un succès, pas moi qui le dis, mais enfin bon, il suffit de regarder trois choses de presse pour se rendre compte qu'en effet, c'est un succès mondial et que cette forme-là, finalement, alors qu'on pourrait se dire, oh là là, mais personne ne peut aimer ça, eh ben si, en fait. Plus les formes sont originales, plus elles peuvent trouver un écho, c'est super.
Il y a une dualité permanente aussi dans cette pièce, et notamment au niveau des sexes, déjà entre un homme et une femme. C'est important de montrer que ces deux êtres qui ont partagé la même histoire, finalement s'opposent complètement dans leur argumentaire, mais aussi dans leur comportement.
Ben oui, parce que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, surtout quand... de toutes les, toutes les pièces que j'ai écrites depuis que j'ai mis en scène, sont un peu... pas comme des suites, mais des chapitres, des addendas comme ça, au rapport homme-femme, moi c'est mon truc. Je fais pas des pièces historiques, je fais pas des pièces sur des choses, de la guerre ou des pièces complètement politiques. Voilà. Je pense qu'à l'intérieur du couple, il y a tout. C'est le monde, c'est le monde dans une sorte de monde nucléaire comme ça. Donc on peut tout faire en fait. On peut tout raconter, on peut raconter à la fois les moments où on est d'accord sur tout, le début de l'amour, on est d'accord sur tout. On est d'accord sur tout. Et après, ça commence à s'écarter quand c'est le cas. Et on n'est plus d'accord sur rien. Et on n'est surtout plus d'accord sur ce qui nous semblait être justement la figure du « on est d'accord sur tout ». Et c'est très beau d'ailleurs au niveau de l'écriture, du fait d'écrire des pièces, d'écrire de la littérature, de montrer comment les souvenirs sont entièrement... qui étaient des souvenirs communs, ne sont plus du tout partagés à travers le temps de la même manière, et que quelqu'un va dire « mais si, je me souviens, j'ai fait l'interview avec cette personne de Radio Campus, il y avait en face de moi un canapé orange, mais non, le canapé n'était pas orange, le canapé était rouge, non, je te jure, il y avait un canapé orange. » Et c'est assez beau de voir comment, finalement, notre imaginaire, nos souvenirs se transforment comme ça, et comment petit à petit ça s'écarte. Mais depuis, j'ai écrit tellement de pièces où ils se retrouvent, où ils se répondent. Il y en a une en ce moment qui joue à Paris, là, d'ailleurs. Au moment où on parle. Mais parce que c'est un sujet, le sujet des couples, voilà, c'est du rapport amoureux, c'est super, quoi. Enfin, c'est super, c'est pas que c'est super, c'est que c'est mon truc.
Et justement, vous parliez des différentes étapes qu'on rencontre au fur et à mesure, peut-être des années. C'était important de passer par les poncifs qui sont le fait de se rappeler les vieux souvenirs, chercher les raisons du désamour, enjoliver le tout et finalement tout détruire en quelques phrases assassines.
C'est pas des poncifs, il faut avoir le courage quand on écrit de pas croire que écrire, c'est une sélection. Écrire, c'est choisir, d'accord ? C'est choisir les mots, etc. etc. Donc c'est du montage continuel. Mais à l'intérieur d'une pièce, moi je trouve que c'est nécessaire qu'il y ait tout de la vie. Que ce que l'on pourrait penser, ou se dire on peut en faire l'économie, etc. Je pense que ça doit y être. Donc repartir dans le passé, exhumer des choses, se dire tu disais ça, c'était bien, et puis maintenant tu dis le contraire, etc. C'est le mouvement. C'est le mouvement humain. Donc en tant qu'écrivain, il ne faut pas avoir peur de restituer tout ce qu'est le mouvement humain, avec ce qu'il peut comporter aussi de choses merveilleuses, de choses parfois pitoyables, voire, comme vous les appelez, des clichés ou des poncifs. C'est nécessaire d'avoir ça, je trouve, à l'intérieur d'une œuvre. Je n'ai pas du tout peur de ça, moi. Je les vois, je les conçois. Et pour moi, ils sont nécessaires. Je ne connais pas d'œuvre où il n'y ait pas à l'intérieur des choses dont on se dise « Ah ben ça, c'est évident, etc. » Dans tout, parce que ce qui va vous apparaître évident ne l'est pas pour d'autres et tout ça. Donc, et c'est marrant de voir comment, finalement, l'imagination du spectateur fonctionne un peu comme une peau de léopard. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient que des taches, d'autres qui voient des couleurs au milieu des taches, etc. Donc le travail artistique est fait dans ce cas-là.
Et donc, un homme et une femme qui, durant pas loin de 2 heures, se confrontent avec une grande intensité émotionnelle. Mais je crois savoir que le rôle féminin est très important pour vous. Et justement, vous parliez il y a quelques instants de courage. Ça témoigne justement d'un certain courage, ce rôle féminin.
Je n'ai pas du courage à écrire. Je ne peux pas être admiré. Je sais pas, c'est le premier mot qui me vient pour le courage que j'ai de parler ou d'écrire pour les femmes. Mais une fois de plus, c'est mon goût personnel dont j'ai la volonté et le plaisir, quoi. D'écrire pour. Récemment, j'étais obligé de regarder des anciens textes à moi pour les publications des œuvres, une sorte de publication des œuvres complètes comme ça. Chose que je ne regarde pas, parce que je ne regarde pas mes pièces d'il y a 15 ou 20 ans ou 30 ans. Mais je me rends compte que les personnages féminins sont vachement présents aussi. J'ai toujours eu ce goût, et chaque fois je raconte un peu cette anecdote un peu bêtasse, mais elle est vraie pourtant. Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, je détestais faire du football, donc je restais sur le banc de touche, quoi. Et je restais avec les filles qui jouaient pas au foot à l'époque, parce que non, les filles jouent vachement au foot et tout ça. Et donc je restais sur le banc de touche. Donc déjà, j'étais sur le banc de touche, donc c'est presque un rapport à la vie d'être pas dans le mouvement, mais sur la touche. Mais j'étais sur la touche, sur le banc de touche, avec les filles. Alors tous les autres s'insultaient en disant « c'est pas comme ça qu'il faut tirer, qu'est-ce que ça fait là, bah, fais-moi la part enfin, », tous ces trucs horribles, cette violence, de se taper dessus, sans rien, des ballons qui font mal à la peau et tout ça. Et moi j'étais avec les filles au soleil, tranquillement, à les écouter parler, et en fait je pense que mon goût de la reproduction de comment ce que se raconte le sexe qui n'est pas le mien, qui est pour moi enfin je le répète tout le temps, mais enfin c'est vraiment l'autre territoire, donc forcément ça m'intéresse d'être là-bas parce que je m'intéresse, voilà, à l'autre en général, parce que faire du théâtre c'est s'intéresser aux autres, et donc le plus grand autre, comme dirait Lacan, eh ben c'est ce qui n'est pas moi, et je suis pas une femme et je m'intéresse à ça et je veux savoir, parce que c'est une terre inconnue. Vraiment.
Un thème aussi qui est omniprésent dans la pièce, ça semble être le rapport entre le réel et la fiction. On pourrait donc assister à une sorte de mise en abîme au niveau de la pièce, de la fiction, mais pas complètement, puisqu'en fait, cette pièce témoigne aussi beaucoup de la réalité. Je crois que c'est quelque chose de très important pour vous de mettre en lumière la réalité et non pas la fiction dans vos pièces en général.
Bah, les deux, j'essaie de plus en plus. Là, c'est marrant, depuis 2-3 nouvelles pièces, là. Il y a une forme de juxtaposition comme ça du réel et de... Je ne peux pas dire d'un monde parallèle, d'histoire parallèle, mais... presque de temps ou d'espace perpendiculaire, c'est-à-dire que comme ma vie est entièrement consacrée au théâtre, c'est-à-dire que je répète tous les jours, je suis tout le temps en train de répéter quelque chose, en France ou à l'étranger. Donc je suis tous les jours en train de répéter un truc ou de monter un truc. Donc je vis sans cesse dans un rapport où voilà, là par exemple, je sais pas, si j'installe 2 acteurs sur ce canapé là et que je répète, voilà. Donc je suis en train de regarder un truc hyper réel, ce canapé très contemporain, tout ça. Et les acteurs avec le texte que j'écris pour. Et puis ça s'arrête et puis voilà, ils vont se lever et puis on va commencer à parler comme je suis en train de parler avec vous et puis on va revenir dans le réel. Je veux dire, je fais un métier qui est très très peu poreux entre les moments fictionnels que je suis en train de répéter et le fait d'en parler, de dire bah, alors est-ce que c'était bien, etc. Donc je passe ma vie à ça, à passer presque comme si j'étais dans une sorte de split, screen split comme ça, c'est-à-dire que dans un écran avec 2 réalités, 2 mondes qui finalement coexistent comme ça, vivent côte à côte. Mais c'est, je sais pas, je pense que des écrivains qui restent la journée chez eux à écrire, comme c'est le cas pour moi quand j'écris, je suis dans ce rapport-là aussi. Et c'est quelque chose dans mes pièces où, en effet, ça a toujours été, ça m'a toujours intéressé. Je ne sais pas très bien comment m'en débrouiller, parce que j'ai l'intuition, peut-être c'est l'intuition de l'imagination, du monde imaginaire, j'ai l'intuition que, en même temps que la bande du réel se déroule, il y a une bande à côté, parallèle, où il y a de la fiction, et que souvent ça se touche comme ça, et... Comme moi-même, ce que je vis, je le mets dans ce que j'écris. Et ce que j'écris, ensuite, influence ma propre vie, ou influence mon entourage, ou influence mon réel. Il y a une forme d'interpénétration, comme ça, une forme de ligne discontinue, comme sur une route. Je n'ai pas mon permis, mais je sais qu'il y a des lignes droites, des lignes continues, et des lignes discontinues. Mais là, c'est pareil, il y a quelque chose comme ça de... Voilà, un peu comme des créneaux de château fort, qui s'interpénètrent comme ça, c'est très beau. C'est un rapport au monde très agréable, en fait. Donc, c'est normal que ça se retrouve dans les pièces que j'écris.
Et justement, par rapport au monologue d'Audrey, elle a une certaine... sur la violence, justement, elle a une certaine violence à recevoir le mot fiction comme représentation de leur amour commun. C'est peut-être la violence de se confronter à la réalité, ou du moins à une forme de réalité.
Non, bah, c'est insupportable. Je veux dire, tu ne peux pas être en couple avec 3 enfants comme c'est l'histoire dans leur histoire. Et qu'on te dise tout ce qu'on a vécu, c'était de la fiction. Tu peux pas l'entendre. C'est inaudible. Tu peux pas entendre de ce que fut les 15 années à la fois concrètes, partir en vacances, faire l'amour, manger, dîner, prendre des petits déjeuners, jouer avec les enfants, construire des trucs, acheter une maison, etc. Que tout ça, c'est pas de la fiction. Et d'entendre ça, ce qui est souvent le cas quand on se sépare, on dit ben, on a ce sentiment là. On a l'impression que tout ce qu'on a vécu n'a été là pour rien. Enfin, on se dit, mais... Donc il y a chez l'être humain cette idée comme ça de bâtir, de construire. Lorsque quelqu'un vous dit, bah, tout ça, c'est fini, on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Donc elle ne peut pas entendre ce mot fiction. Quand il dit c'est une fiction, elle ne peut pas entendre ça. Si on devait faire une analyse du texte, on dirait que elle, pour elle, la fiction, en effet, c'est son métier, c'est répété, puisque c'est l'histoire d'une actrice et d'un metteur en scène, mais que leur vie soit une fiction, non. Que l'amour que j'ai eu pour toi ou que j'ai reçu toi soit une fiction, non. Ça, c'est inaudible.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est à mi-chemin entre la libération et en même temps la peur de se retrouver seul ?
Good job, c'est ça. C'est-à-dire que si vraiment on analyse le texte, forcément, au début, dans les premières 15-20 lignes, ce qu'elle raconte, c'est que elle dit qu'elle a plus de langue, qu'elle a plus de mots, qu'elle a plus de langage structuré, qu'elle a plus de grammaire, qu'elle a plus rien, etc. Et petit à petit, ça revient. Donc elle est un peu comme une sorte de grand brûlé, si tu veux, qui vient d'être passé au feu, à traverser le feu. Donc tout est brûlé. Et puis petit à petit, à travers la parole, ce à quoi je crois, la vertu thérapeutique de la parole et du fait de dire les choses, de les verbaliser, de se guérir du fait de dire les choses et pas garder en soi pour que ça continue à brûler, mais au contraire le dire. Petit à petit, elle se rend compte que ce chemin-là, qui était difficile et dur, cette douleur immense qui l'a comme anéantie, finalement la conduit sur, en effet, comme vous le dites, le chemin de l'émancipation. Enfin, moi, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit ça. J'ai écrit une pièce qui montre deux émancipations, la sienne, au personnage de Stan, qui d'une certaine manière s'émancipe de quelque chose. Il a le courage de dire « j'arrête, c'est fini, je ne t'aime plus, je m'en vais ». Le nombre de gens qui disent « j'aimerais partir, je n'aime plus, mais je reste pour mille raisons », d'accord ? Donc toutes ces raisons que l'on... Hein, là, ce n'est pas le cas. Lui, il peut apparaître horrible, effrayant, détestable, insupportable, etc. Il a pour moi, en tout cas, la vertu de dire, d'être en conformité avec sa pensée et de mettre en conformité ses actes avec sa pensée ou son sentiment. Et elle, comme premier temps victime de cet effet de désir de liberté de la personne qu'elle a aimé, finalement se rend compte que ben c'est possible et que de cette immense douleur on peut s'en relever, et non seulement s'en relever mais trouver des armes qui vont être les instruments de sa propre liberté, de l'organisation de soi-même désormais, et que maintenant même il y a une forme de plaisir, il y a quelques phrases à la fin où si on les lit correctement on se rend compte que c'est ça qu'elle dit. Elle dit maintenant je vais pouvoir vivre sans toi et c'est une chose possible. Et ça, dans la pièce, je pense que ce qu'il y a aussi, ce qui a été beaucoup entendu, pas simplement qu'en France hein, mais en Chine, au Caire, aux États-Unis, en Russie, enfin partout dans le monde où je l'ai fait, puisqu'actuellement je crois qu'il y a quelque chose comme 25 différentes versions qui se jouent là partout dans le monde, tout le temps, dans toutes les langues, pas celle forcément celle que j'ai faite moi, il y a plein d'autres metteurs en scène qui le font, mais pour cette pièce là comme plein d'autres pièces à moi qui sont reprises par d'autres metteurs en scène à travers un peu partout dans différents pays, mais celle-ci particulièrement, parce que je crois qu'elle montre aussi que même quand on croit qu'on est à terre sans plus aucune ressource, bah cette pièce montre le contraire. Elle montre une personne qui se relève et qui s'émancipe de l'autre. Donc dans certains pays, c'est bien.
C'est intéressant parce que vous avez répondu à ma question qui allait suivre. Donc il y a beaucoup d'espoir finalement en fait dans cette pièce dans laquelle on sent beaucoup la douleur, la souffrance.
Oui, c'est ce que j'ai écrit. C'est ce que j'ai écrit où je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Mais c'est ce que je dis aux acteurs avec qui je le monte. Hein. Les premières choses que j'indique aux actrices, je parle assez peu parce que les actrices très vite comprennent la pièce et s'en emparent. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la pièce, mais telle que la version qui est là, c'est celle que j'ai montée partout dans le monde. Hein. J'ai pas fait deux versions différentes. C'est la même mise en scène. J'ai fait plein de mises en scène de mes pièces différemment dans différents pays. Clôture de l'amour, c'est cette version-là. J'arrive pas à sortir de ce module-là. Voilà, la pièce est comme ça, elle est comme ça. Mais donc, les actrices comprennent très très vite de quoi il s'agit. C'est pas la peine de parler beaucoup avec elles. Les hommes ont parfois plus de mal, c'est plus compliqué. Mais les actrices, non. Les femmes partent à fond les ballons là-dedans, quoi. Elles sont entièrement... Et donc, c'est ce que je leur dis. C'est une histoire d'émancipation. Et c'est assez clair très vite, et après, elles font leur travail.
Vous l'avez déjà un petit peu dit au tout début de cette interview, mais finalement, on peut tous se reconnaître dans cette pièce.
Il paraît. Je ne sais pas moi-même si je me reconnaîtrais dans cette pièce, si je la voyais en étant, tu vois. Il semblerait, oui, que, enfin, c'est toujours ce qu'on me dit, oui, mais quand on me dit, mais tu sais, ça a beaucoup de succès parce que les gens essaient de comprendre et disent, bah, parce que c'est, voilà, c'est un thème universel, la séparation, l'amour, etc. Et la façon dont c'est traité, je pense que c'est, comme je disais au début, très, 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 très personnel et manifestement, oui, les gens ont l'air de se reconnaître dedans. Par exemple, quand je l'ai monté à Tokyo, après la première lecture, avec des acteurs en plus que je connais très bien, avec qui je travaille depuis très longtemps au Japon et tout ça, on a fini la première lecture. L'acteur japonais m'a dit, mais pourquoi il parle tant, quoi? Bah, je lui dis, bah oui, il peut y arriver, parce qu'il me dit, il pourrait arriver et dire, voilà, c'est fini, puis il sort. Je lui dis, bah oui, on peut faire ça, voilà, c'est fini, puis il sort, puis il n'y a pas de pièce, évidemment. Là, c'est une pièce sur le langage, c'est une façon à la fois de montrer comment le langage dit beaucoup, cache beaucoup, s'avance, recule, essaie de dire des choses, essaie de voiler des choses. Enfin, c'est aussi vieux qu'est l'homme parlant. À partir du moment où on commence à élaborer du langage parlé, on est dans un rapport de façon de montrer, façon de pas montrer. Le langage est extrêmement menteur, enfin, oui, en tout cas, il est très voilé. Il suffit de s'intéresser à la philosophie pour voir à quel point c'est comme ça, ou voilà, la psychanalyse, etc. Bon, et donc, il y a ça de moi, que j'aime beaucoup dans le langage, qui est à la fois cette capacité à dire des choses et en même temps à exprimer sa propre limite. Le langage, en fait, exprime sa propre limite. Il y a un endroit où il ne peut pas aller plus loin. Mais c'est bien aussi, parce que cet endroit où il ne peut pas aller plus loin, parfois, ça pourrait être aussi une forme, je ne sais pas, si, de définition de la poésie qui fait que si un langage ne peut pas aller jusqu'à un certain endroit, et ben c'est celui qui le lit, c'est le spectateur qui regarde le film ou le théâtre, la pièce, qui continue le poème d'une certaine manière. Enfin, c'est la grande idée de Mallarmé. Ouais. Donc c'est peut-être à l'endroit où le langage s'arrête que commence l'art, en fait, que commence l'imaginaire de l'autre qui commence à finir par sa propre imagination ce qu'il voit sur le plateau. C'est peut-être ça, les œuvres. Les grandes œuvres, je parle vraiment des grandes œuvres. Quoi.
Oui, il y a une dernière question que je me posais. J'ai l'impression que dans la pièce, il y a une grande distanciation entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Je pense à une phrase notamment que j'avais notée de Stan, je crois. Où sommes-nous quand nous aimons ? C'est comme une secte, les amoureux.
C'est-à-dire que quand il parle de ça, il dit que l'amour, quand on aime, on vit à l'intérieur de... L'amour est une secte. C'est une façon de dire... On vit à l'intérieur d'un regard, tu vois, il y a les amoureux, ils se regardent comme ça, ils sont là, ils se dévorent des yeux, etc. Dont ils se moquent au début de la pièce, ils vont se regarder, etc. Et non, quand il dit les amoureux se regardent dans le blanc des yeux, etc., c'est ça. Et il dit donc, en effet, d'un coup, l'amour, c'est une cloche, enfin, on vit sous quelque chose entièrement. Un jour, ça s'ouvre, tu vois. Et c'est ça qu'il raconte. Après, la question que vous posez, c'est plus la différence entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, qui est pour moi quelque chose d'assez fondamental dans tout ce que j'écris. En effet, parce que je pense que aimer et être aimé, c'est la plus grande expérience humaine qui nous est donnée, pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui sont astrophysiciens et qui peuvent avoir ce rapport-là de passion absolue avec le ciel, etc. D'autres qui vont croire en Dieu et qui vont trouver à l'intérieur de leur foi ce rapport. Voilà. Bon, c'est juste toutes ces choses transcendantes comme ça. Moi, je ne suis pas physicien, pas médecin, je ne crois pas en Dieu, mais l'expérience de l'amour est une expérience dont on n'a pas besoin d'avoir, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin de s'associer à un livre comme la Bible ou d'autres choses. On peut juste s'associer. Comme il y a un très beau mot en français qui dit s'aboucher, c'est-à-dire attraper par la bouche. Très beau mot qui n'est plus vraiment utilisé, aboucher, mais c'est ça, se mettre bouche à bouche avec l'autre. Et ça, c'est comme le théâtre un peu, c'est-à-dire c'est gratuit, quoi. Tu peux le faire, tu peux le commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra, un micro, etc. Le théâtre, tu le commences maintenant. Le théâtre, tu le fais là tout de suite, quoi. Comme l'amour, ça se fait là tout de suite. C'est pas un truc où tu dis il va falloir, je sais pas, un hôtel 5 étoiles ou au contraire, je sais pas, un lit spécial. Non, là, voilà, c'est un truc qui est. C'est le réel tout de suite, quoi. C'est le réel là tout de suite. Et cette chose-là, je trouve que c'est. Pour moi, c'est l'expérience humaine absolue et avec tout ce que ça veut dire de choses qui font mal, évidemment, quand on n'aime plus ou qu'on n'est plus aimé. Mais au moins ça. Je pense que la chose terrible pour un être humain, c'est... Il y a des gens qui n'aiment pas, hein. Il y a des gens qui disent, bon, bof, voilà, on s'est rencontrés, on s'est mariés, voilà. Voilà, je l'aime bien, c'est mon mari ou c'est mon mec. Moi, j'entends ça, je dis, mais attends, tu fais quoi de ta vie, quoi ? Je dis, enfin, je sais pas, on a une vie, quoi. Donc, je sais pas. Donc, il y a ça. Et puis, des gens... Et d'ailleurs, je pense faire un truc là-dessus, mais c'est le fait de ne pas être aimé. Je veux dire, de passer. Il y a des gens qui auront passé leur vie entière et que personne n'aura aimé. Soit parce qu'ils étaient, je sais pas moi, surtimides, ou soit parce qu'ils savaient juste bon, pas s'y prendre et que dans une société comme la nôtre, quoi, bah, je sais pas, il faut un petit peu, je sais pas, savoir où se faire joli ou se faire jolie, ou être, je sais pas, un peu séduisant, ou des gens qui peuvent être très bien mais qui juste s'empêtrent, quoi. Tu vois ? Des gens qui arrivent pas, quoi, juste qui... Et puis bon, et puis les autres passent à côté, et puis tu sais, ce genre de filles qui sont dans les classes, et puis il y a toutes les filles qui rigolent à l'arrière du bus, et puis t'en as une qui... Elle est même pas devant le bus, c'est pas celle qui est la plus forte en classe, elle est ni très forte en classe, ni la je sais pas, la fille girly trop bien, avec qui toutes les autres filles rigolent, avec tous les autres mecs, hein. Elle est juste entre les deux, et puis il n'y a rien. Voilà, invisibilisée, et vivre une vie... comme ça, c'est terrible. Et je trouve que le fait d'en parler, de t'en parler maintenant, c'est une idée que j'ai. Les idées, il faut que je me contrôle, puisque sinon, comme je fais entre 8 et 12 productions nouvelles par an, donc il faut vraiment que je mette un peu le calme. Mais ce rapport de... Comme j'ai beaucoup travaillé sur des choses où, voilà, où des gens qui se sont aimés, qui ne sont plus aimés, mais enfin au moins ils ont aimé ça... L'inverse absolu, c'est-à-dire Il y a une planète qui existe pour ça, qui s'appelle Antinéa, dans le panthéon grec, et en fait, c'est la planète de l'amour non rendu, c'est-à-dire l'amour qui n'est pas partagé, c'est-à-dire c'est la planète des amoureux qui aiment, mais qui ne sont pas aimés. Donc tu vois, c'est sans cesse, quoi, tu t'arrêtes jamais, quoi. Voilà.